Chapitre 33. Mary était toujours entre la vie et la mort lorsque Jem arriva chez Sturgis. Les médecins ne donnaient pas encore d'espoir et paraissaient même conserver leur inquiétude. Mais si l'état de la jeune fille offrait toujours autant de dangers, les caractères qu'ils présentaient maintenant avaient perdu ce qu'ils avaient de déchirant pendant les premiers jours. La stupeur avait remplacé l'exaltation et le délire avait cessé. Jem ressentait auprès d'elle ce que chacun éprouve en restant au chevet d'un malade qui lui est cher, cette difficulté d'attendre patiemment une amélioration trop lente à venir, et de supporter ces longues heures si douloureuses dans leur monotonie. Cependant, un jour, la respiration devint plus calme, plus régulière. L'effroi du regard fit place à une douce langueur. Elle s'endormit paisiblement, et quand elle s'éveilla, son esprit avait la naïveté de celui d'un petit enfant. Elle regardait avec plaisir le papier de la chambre où elle était, et dont la nuance claire et gaie n'avait rien de trop éclatant. Elle revoyait la lumière avec joie et s'amusait de tout ce qu'elle apercevait autour d'elle, de l'image des navires, des festons des rideaux, des fleurs peintes sur le dossier des chaises, du globe de verre suspendu devant la fenêtre et contenant du sable de couleurs variées provenant de l'île de Wight ou d'ailleurs. Mais elle ne vit pas le visage radieux, le regard humide et reconnaissant, les mains jointes de celui qui écartait les rideaux pour guetter son réveil. Elle referma les yeux et se rendormit sans qu'une parole eût été prononcée pendant ces quelques instants d'une joie inexprimable. Jem était venu s'asseoir auprès de son lit et ne se lassait pas de regarder ses traits pâles dont la maigreur faisait ressortir la pureté. Quand elle rouvrit les yeux, elle rencontra ceux de Jem et lui sourit comme un enfant qui retrouve sa mère à côté de son berceau. Mais l'instant d'après, l'intelligence vint éclairer son regard. Elle se souvint, et s'efforça de cacher sa rougeur en détournant la tête. Jem, craignant de lui causer une émotion trop vive, appela Mistress Sturgis qui sommeillait au coin du feu, et sortit pour épancher sa joie, dont l'expression éclatait malgré lui dans chacun de ses mouvements. Depuis lors, la convalescence de Mary fut rapide. Plusieurs motifs importants faisaient souhaiter à Jem de la ramener à Manchester, dès qu'elle serait assez forte pour supporter le voyage. Non seulement sa mère devait se trouver bien isolée, mais encore ses affaires négligées depuis longtemps réclamaient sa présence. Il se pouvait qu'au mépris du verdict qui l'avait acquitté, sa réputation n'en fût pas moins atteinte par l'emprisonnement qu'il avait dû subir. Il se rappelait avoir pensé lui-même qu'il ne convenait pas à l'honnête homme, dont les actes n'avaient jamais été inculpés, d'entretenir le moindre rapport avec celui que le soupçon avait flétri. Le souvenir des malheureux venant chercher à l'atelier le gagne-pain que la prison leur avait fait perdre, et qu'il avait vu chasser par les regards, les demi-mots, le silence outrageant de ses camarades, lui revenait sans cesse à l'esprit. Il lui tardait de se présenter à la fonderie et de savoir s'il pourrait y reprendre la place qu'il y avait occupée, ou bien s'il serait forcé de chercher ailleurs l'emploi de son travail et de ses forces. Toutefois, il hésitait à partir en songeant à la rencontre qui attendait Mary à Manchester. Elle était si faible encore. À peine si elle pouvait murmurer quelques paroles sans fatigue, dire à voix basse ces quelques mots dont l'oreille de Jem était avide. Et il y avait dans son regard, dans ses mouvements alanguis, tant de confiance et d'amour qu'il n'avait pas le courage de lui rappeler son père et de hâter une entrevue qui devait renouveler ses douleurs. Vint un beau jour où le ciel était bleu, l'air tiède et embaumé. Mary s'appuya sur le bras de Jem et sortit avec lui, toute chancelante, et se serrant contre son amie, dont le cœur battait avec violence. Mistress Sturgis les regardait, une larme de joie dans les yeux, une parole de bénédiction sur les lèvres, pendant qu'ils descendaient la rue, toute brillante de lumière. Quand ils furent près du port, Mary frissonna de tous ses membres. « Jem, il faut rentrer, » dit-elle. « Ramène-moi à la maison. Cette rivière m'éblouit en même temps qu'elle me glace. Elle ressemble trop à ce que j'ai vu avant d'être malade. Quand partirons-nous » reprit-elle, après quelques instants de silence. « Je veux dire, pour Manchester, je suis lasse de cette ville. Je voudrais être chez nous. » Elle était triste et semblait pressentir le chagrin qui l'attendait. « Quand tu voudras, ma chérie. Quand tu seras assez forte pour supporter la route. Marguerite a dû tout préparer pour te recevoir chez elle. Le vieux Job a pensé que tu y serais mieux soigné. Il a raison, tu ne peux pas rester seule. Au contraire, Jem, il faut que je retourne chez nous et que j'y reste toute seule. Je ne puis pas te dire pourquoi. Si tu le devines, tu comprendras bien mes raisons. Je t'en prie, ne t'y oppose pas et ne m'en parle plus. Du moins jusqu'au moment où je t'en parlerai la première. Promets-le-moi, Jem. » Il promit tout ce qu'elle voulait, heureux de lui accorder quelque chose. Le regretta l'instant d'après et finit par penser que peut-être savait-elle des détails qu'il ignorait et dont la connaissance pouvait lui tracer un plan de conduite qu'il ne devait pas déranger. Le jour du départ, celui que Mary avait fixé, vint enfin. Mais à présent que l'heure était venue de quitter ses hôtes, elle s'étonnait d'avoir pu le désirer, d'avoir cru qu'elle s'ennuyait dans cette demeure paisible où même les paroles un peu bourrues de l'excellent Ben faisaient une basse harmonieuse à l'accord qui existait entre sa femme et lui. Elle regrettait sa petite chambre où elle avait retrouvé Jem et sa tendresse. Tout lui était cher dans cette humble maison, les rideaux et les meubles, et quels n'étaient pas ses regrets de se séparer du vieux couple qu'il avait soigné, comme il eût fait de sa fille. Elle ne pouvait s'arracher des bras de Mistress Sturgis, et ne trouvait que des larmes pour exprimer sa gratitude. Ben allait et venait dans la salle, tenant d'une main la précieuse bouteille d'eau-de-vie que nous avons déjà vue, de l'autre un gobelet qu'il présenta d'abord à Mary, puis à Jem, puis à sa femme. Et comme chacun l'avait refusé tour à tour, il s'était administré les trois petits verres, donnant pour raison qu'il ne fallait rien perdre, et que liqueur versée devait toujours se boire. Puis, se disant, il avait remis la vieille bouteille à sa place, et d'une voix ferme avait rappelé à Jem qu'il fallait s'en aller, ou sinon manquer l'heure du convoi. Mistress Sturgis avait jusque-là gardé tout son courage, mais quand ils eurent fermé la porte, elle se mit à fondre en larmes. « Peut-être qu'il sera trop tard, » s'écria-t-elle, en entendant sonner l'heure. « Quel bonheur si le train était parti !»«
Eh bien quoi, il reviendrait, » reprit Ben, « et ce serait à recommencer. Non pas, non pas. Vaut mieux que ce soit fini. Assez pleuré comme ça. Il est très inutile d'en revenir aux adieux. Trois petits verres que ça me coûterait encore. Ceux d'aujourd'hui ont déjà fait leur trou dans la bouteille. Il est temps que Jack en apporte de Hambourg, » continua-t-il en s'essuyant les yeux.
Jem n'avait pas dit à Mary qu'il avait vu Burton. Elle ignorait qu'il fût de retour, et cependant elle pressentait qu'il avait dû revenir. À mesure qu'elle approchait de Manchester, l'émotion qu'elle ressentait devenait plus vive et se trahissait sur son visage par une pâleur plus grande. La pensée du crime de son père avait creusé dans son cœur un abîme qu'elle n'osait pas sonder. Par moments, elle avait peur en songeant aux instants qu'elle allait passer, en tête à tête avec un meurtrier. Elle se voyait travaillant seule auprès de lui, quand tout le monde serait couché depuis longtemps et que plus sombre que jamais, il serait à côté d'elle, en proie aux remords qui déchiraient son âme. Elle avait peur et sentait un cri d'effroi lui monter jusqu'aux lèvres. Mais aussitôt, elle se rappelait tant de bonté qu'il avait eue pour elle, tant d'amour quand elle était enfant, quand elle n'avait eu que lui après la mort de sa mère, que toute sa tendresse lui revenait plus ardente. Pauvre père, il devait tant souffrir. Elle serait toute patiente, toute affection pour lui, quelle que fût son humeur, elle le veillerait. Elle serait pour le coupable l'ange de miséricorde et attendrait l'époque où elle pourrait verser, comme un baume, ses paroles consolantes dans cette âme désolée.
« Jem, tu vas rentrer chez Job et m'attendre, » lui dit-elle lorsqu'ils furent arrivés. « Si, dans une demi-heure, je ne suis pas venue t'y rejoindre, tu iras chez ta mère. Fais-lui bien mes compliments. J'enverrai Marguerite pour te dire lorsqu'il faudra que tu viennes. »
Elle soupira profondément.
« Je ne veux pas te quitter comme ça, Mary. Tu me parles aussi froidement que si je n'étais rien pour toi, et mon cœur... »
Elle l'arrêta.
« Souviens-toi de ce que je t'ai dit souvent à propos de mon amour. Je le pense encore. Je souffre de te quitter, mon Jem. Et si je ne te dis rien à présent de ce que je ressens pour toi, c'est que je ne suis pas dans un moment où l'on puisse en parler. Je me blâmerai toute ma vie de ne pas faire aujourd'hui ce que je crois être mon devoir. Ainsi donc, va m'attendre. »
Et traversant la cour, elle se trouva chez elle. Son père était là, complètement immobile, et ne tourna même pas la tête pour savoir qui entrait. Peut-être avait-il reconnu le pas de sa fille et la manière dont elle ouvrait la porte. Il était près de la cheminée, où des cendres refroidies depuis longtemps
couvrait les barreaux de la grille et avait pris sa place accoutumée sur la chaise qu'il occupait toujours. L'habitude seule dirigeait ses actions, car toute son énergie s'était retranchée dans son âme pour y soutenir le combat que lui livrait sa conscience. Ses mains étaient croisées sur ses genoux. Son visage, qu'on eût pris pour celui d'un spectre, exprimait une souffrance que les spectres n'ont plus. Votre cœur eût saigné de voir cet homme, quelque sévérité que vous inspirât son crime. En le voyant, Mary oublia tout. C'était son père. Il souffrait. Et, quelle qu'en fût la cause, elle sentait son amour s'augmenter de sa misère. Son crime était une chose à part, qui ne lui importait pas, et qu'elle ne savait plus. Elle avait un peu d'argent, celui qu'on lui avait donné pour prix de son témoignage. Elle sortit pour aller chercher du charbon, de la chandelle et quelques aliments. Rien de tout cela n'était dans la maison. Et qui pouvait savoir depuis quand son père avait mangé? Elle revenait en toute hâte, lorsqu'en passant auprès de la porte de Job, elle se dit que Marguerite viendrait peut-être la voir, sinon dans la soirée, au plus tard le lendemain. Et qui mieux que la jeune aveugle savait interpréter le son des voix, des soupirs et jusqu'au silence même. Elle entra donc, et avant qu'elle eût dit une parole.
« Grand-père !» s'écria Marguerite. « Voilà Mary, je la reconnais à son souffle. »«
Ah, tu as un peu meilleure mine que la dernière fois que je t'ai vue, » dit le vieillard à Mary. « Ça fait honneur à Jem. »« Un peu à moi aussi. Je me ferai garde malade quand je n'aurai plus d'ouvrage, et tu me recommanderas. »
Il prit la chandelle pour mieux voir la jeune fille.
« Allons, tes joues ont un peu de rose, pas beaucoup, mais je les ai vues si pâles et tes lèvres si blanches. Tu as encore le nez un peu pointu, comme ça tu ressembles plus à ton père que quand tu étais plus grasse. Montée du ciel, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu vas te trouver mal ?»«
Il est revenu, » dit-elle avec effort. « Il est si souffrant que j'ai même prié Jem de ne pas venir pour le voir, de peur de le fatiguer. »
Mais sans faire attention à la manière dont elle disait ces mots, et surtout sans tenir compte de l'insinuation qu'elle tâchait d'y glisser, Job posa l'insecte qu'il venait de prendre et qu'il allait enfiler d'une épingle, en s'écriant
« Ton père est revenu, et Jem ne nous en a rien dit. Malade encore! J'y cours pour tâcher de le distraire avec un brin de causette. Je n'ai jamais pensé que toutes ces délégations pourraient tourner à bien. »
« Oh, Job, mon père est trop souffrant. Il faudra qu'il se couche, ne venez pas. Vous êtes bien bon, mais ce soir, en vérité, je vous en prie. » « Ne venez pas sans que je vous l'ai demandé. Mon père est quelquefois si singulier. Vous savez bien, je crois vraiment qu'il aimera mieux ne voir personne. Et ne vous fâchez pas, cher Job. Oh, si vous saviez tout, vous auriez pitié de moi. »
Job grommelait entre ses dents, tout en arrangeant ses insectes. Et Marguerite elle-même souhaita le bonsoir à Mary d'une voix contrainte. La pauvre enfant partait, mais au moment de fermer la porte, elle ne put supporter la pensée d'être accusée d'ingratitude par son vieil ami qui avait tant fait pour elle, et rentrant dans la chambre, elle vint l'embrasser en pleurant, se jeta au cou de Marguerite et s'en alla sans rien dire. Elle retrouva son père, comme elle l'avait quitté. Rien n'était changé, ni dans son attitude, ni dans l'expression de ses traits. Il répondit à ses questions, mais par monosyllabes, d'une voix faible, et sans lever les yeux sur elle. Il n'aurait pu supporter le regard de son enfant. De son côté, malgré tous ses efforts pour agir autrement, elle évitait de le regarder et ne pouvait parvenir à retrouver auprès de lui l'aisance et les manières qu'elle avait autrefois. C'est ainsi que plusieurs jours s'écoulèrent. Quand venait le soir, il se traînait péniblement jusqu'à sa chambre, et pendant de longues heures, elle l'entendait gémir. Le désespoir qu'exprimaient alors ses plaintes paraissait d'autant plus poignant à la jeune fille qui ne s'exhalait que dans l'ombre et dans la solitude. Plus d'une fois, elle s'était levée pendant la nuit, en se demandant si elle ne ferait pas mieux d'aller le trouver, si elle ne le soulagerait pas en lui disant qu'elle savait tout et qu'elle l'aimait toujours. Le matin arrivait. Les heures passaient au milieu d'un morne silence. Venait le repas. Il mangeait et ne se nourrissait plus. Et chaque soir, l'ombre de la mort semblait avoir grandi sur son visage. Les voisins, que depuis longtemps le caractère de John avait éloigné de chez lui, se contentaient de demander de ses nouvelles à sa fille quand il la rencontrait. Et leur réserve, ou plutôt leur indifférence, paraissait à son esprit frappé avoir un tout autre motif, Job et Marguerite commençaient à lui manquer, surtout Jem, dont la tendresse intelligente savait l'entourer de tant de soins, qu'il semblait éloigné d'elle jusqu'aux pierres de la route et jusqu'au vent du ciel. Il rôdait chaque jour dans le voisinage, elle le sentait plutôt qu'elle ne le voyait, et le rencontra chez Job où elle était entrée. Il se leva quand elle partit et resta quelques instants avec elle sur les marches de la porte.
« Quand viendras-tu chez ma mère ?» lui dit-il. « Demain, elle a tant besoin de te voir. »« Je ne sais pas. Je ne puis pas te dire quand je le pourrai. Il faut attendre. Ce ne sera pas long. Peut-être quelques jours encore. Adieu, Jem. Laisse-moi retourner vers lui. »
Le lendemain, comme elle travaillait près de la fenêtre, elle aperçut la dernière personne qu'elle eût désiré voir, Sally Leadbitter, qui se dirigeait évidemment de son côté. L'instant d'après, on frappait à la porte. John lança vers sa fille un regard inquiet. Mary, qui savait bien que Sally ne se ferait pas scrupule d'entrer si on ne répondait pas, s'empressa d'ouvrir et, gardant la main sur le loquet, elle barra le passage à son ancienne compagne.
« Eh bien, Mary, te voilà revenue. Je l'ai appris hier, et je viens tout de suite te voir. Que de nouvelles tu as à me dire ?»
Et la curieuse, s'imaginant que Mary cachait quelque amant dans la chambre, se leva sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus l'épaule de la jeune fille. Elle n'aperçut que le visage sombre de Burton, dont elle avait toujours eu peur, et se baissa tout à coup.
« Le vieux père est donc de retour, hein ? Que dit-il de tes hauts faits, tant à Liverpool qu'ailleurs ? Car enfin, tu ne peux plus lui cacher puisque c'est dans le journal. »
Mary supplia Sally de changer de conversation. Elle sentait que Burton les écoutait. Quelque chose dans sa manière de respirer, dans son attitude, moins affaissée, prouvait qu'il était attentif. Mais Sally n'était pas fille à s'arrêter pour si peu, quand elle avait à satisfaire son ardente curiosité.
« Pourquoi ne pas en parler ? » reprit-elle. « C'est tout au long dans le Gardien, dans le courrier. Jane Hudson a même dit l'avoir vue dans un journal de Londres. Et c'est toi l'héroïne de l'histoire. Que penses-tu d'être témoin ? Aimes-tu ça ? Les avocats sont insolents, n'est-ce pas ? Et comme chacun vous regarde. Je parie que tu as regretté de n'avoir pas pris mon écharpe moirée, comme je te l'avais offert. Avoue-le, sois franche. »
« Je n'y ai même pas songé. Comme d'ailleurs...
Oh ! J'oubliais que tu n'étais occupée que de ce stupide Jem Wilson. Eh bien, tu peux m'en croire. Si jamais j'ai la chance d'être appelé comme témoin, je choisirai pour galant quelque chose d'un peu mieux que l'accusé. Un clerc d'avoué, ou tout au moins un geôlier. Mais le prisonnier, fi donc !»
Je t'assure que je ne pensais guère à trouver des galants. Mais parlons d'autre chose. Comment va Miss Simmons ?
Très bien. Elle m'a même prié de te dire que tu pouvais rentrer à l'atelier, si ça te plaisait. Et entre nous, je puis t'affirmer qu'elle en serait enchantée. Il est certain qu'après toute cette affaire, bien des gens viendraient au magasin, quand ça ne serait que pour te voir. Je parie tout ce qu'on veut que pendant 6 mois, on arrive de Salford rien qu'à cette intention.
Dis-lui que je n'irai pas. Et même, il est probable.
Oui, je te comprends, mais ça ne sera pas tout de suite. Il est chassé de la fonderie, et tu feras bien d'y regarder à 2 fois avant de refuser ce que t'offre Miss Simmons.
Chassé de la fonderie ? Jem ?
Certainement, ne le sais-tu pas. Des gens honnêtes, ça ne veut pas travailler avec un... Je ne dois pas le dire devant toi, vu toute la peine que tu as prise pour établir son alibi. Après tout, je n'en pense pas plus mal d'un garçon qui a du cœur et qui tue son rival. Ça se fait toujours au théâtre.
Mary pensait à Jem.
« Raconte-moi ce que tu en sais, »
balbutia-t-elle.
« Bien vois-tu, ils ont toujours des épées sous la main, car à la comédie, c'est de Jem que je parle, et non pas de tes acteurs, »
interrompit Mary.
« Dame, on dit qu'il a été chassé parce que son innocence n'est pas du tout prouvée, quoique le jury n'ait pas voulu le faire pendre. Le père Carson est furieux, un vrai sauvage contre les juges, les avocats et le reste. Voilà tout ce que j'en sais. »
« Il faut que je le voie et que je lui parle, »
dit Mary d'une voix tremblante.
« Il te dira que c'est la vérité pure. Aussi je ne répondrai rien pour toi, Miss Simmons. Je te laisserai le temps d'y réfléchir. Bonsoir. N'oublie pas d'y penser. »
Mary ferma la porte. Burton avait repris sa première attitude. Seulement, son front s'inclinait davantage vers la terre. Elle mit son chapeau et son châle pour aller trouver Jem, et s'arrêta un instant auprès de son père au moment où elle allait sortir. Elle comprit qu'il parlait, mais sa voix était si faible qu'elle fut obligée de se baisser pour l'entendre. C'était la première fois depuis son retour qu'il lui adressait la parole.
« Dis à Jem de venir ici ce soir. À 8 heures !» répéta Burton.
Avait-il entendu la conversation de Sally avec sa fille? C'est ce que Mary se demandait en se rendant chez la veuve.